Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Messages à caractère informatique. Nous sommes dans le troisième épisode, l'épisode numéro 2, puisqu'on commence à compter à zéro. Aujourd'hui, je suis accompagné de gens merveilleux tels que Geoffroy Coupry. Bonjour Geoffroy Coupry.
Bien bonjour.
Qui êtes-vous Geoffroy Coupry ?
Alors, moi c'est Geoffroy. Moi je suis chez Clever, je m'occupe des projets un peu louches, de transporter des paquets d'un endroit à un autre du réseau, en assurant que ça arrive au bon endroit.
Je suis aussi accompagné de Arnaud Lefebvre. Qui es-tu, Arnaud Lefebvre ?
Bonjour. Arnaud, je travaille à Clever Cloud et je m'occupe d'un peu de la partie front de mon côté console et un peu de différentes intégrations d'add-on type Elasticsearch, Artifactory, Jenkins, ainsi que d'autres sujets d'Ops. Voilà.
Merci. Et je suis accompagné de Quentin Adam. Est-il nécessaire de présenter Quentin Adam ?
Oui, sans doute. Je suis le pseudo WXZCE sur Twitter, qui est vachement relié à mon nom. Et chez Clever, je réponds à des mails. Merge des pierres. Cette semaine, j'ai mergé des pierres.
C'est un pseudo propriétaire par la complexité, sauf sur Pokémon Go. Sans plus attendre, premier lien, on va parler de gestion de temps dans les systèmes distribués. On va parler de clock, de vector clock, des choses comme ça. Moi, c'est un lien qui m'a bien plu parce qu'il explique pourquoi avoir des serveurs à l'heure, c'est important qu'on fait des systèmes distribués. Geoffroy, tu l'as lu.
Alors, de manière assez simple, on veut savoir si un événement est arrivé avant un autre dès qu'on a des choses à gérer au niveau de données. Par exemple, qui a pris le dernier jeu Pokémon sur le site e-commerce ? Faut avoir l'heure. Alors, on avait avant des méthodes qu'on trouve par exemple dans MTP où on va faire des appels entre serveurs, chacun dit quelle heure il a et on essaie d'estimer la latence entre les serveurs pour arriver à se synchroniser. C'est plutôt efficace, il y a des méthodes assez marrantes pour optimiser ça et obtenir une bonne précision. Mais dans les systèmes distribués, notamment dans les bases de données, on est arrivé assez rapidement, dans les années 70, dans un papier de Leslie Lamporte, aux horloges logiques et aux vector clocks. L'idée, c'était de considérer qu'on ne veut pas avoir l'heure précise. Ce qu'on veut, c'est savoir si un événement qu'on connaît est arrivé avant un autre que quelqu'un d'autre connaît.
Si j'ai retiré 20 euros et que je veux re-retirer 20 euros, toujours le même exemple donné dans les banques.
C'est ça. Par exemple, moi, je veux faire mes comptes et je veux m'assurer que quand je retire à nouveau 20 euros, je dis c'est un événement qui arrive après le premier retrait. Si le service en face reçoit le deuxième événement de retrait et voit qu'il n'a pas reçu le premier, il va se dire « Ok, il y a une erreur, donc la transaction ne se fait pas correctement. » Et en fait, relaxer un peu la synchronisation comme ça, ne pas s'assurer qu'on est juste complètement à l'heure, mais qu'on a un ordre qui est à peu près cohérent, ça permet d'être plus rapide, de mieux gérer sa donnée, on va dire. Et donc, il y a énormément de bases de données qui se battent là-dessus. On ne va pas se leurrer, gérer un ordre correct dans les événements sur des centaines de machines, ça reste quand même un vrai problème.
C'est le problème principal de tous les systèmes distribués. En fait.
C'est ça.
C'est pour ça qu'MTP, ça me fait un peu flipper, mais ce n'est pas grave, puisque Spanner a réglé ce problème en utilisant des horloges atomiques. Mais ils n'en parlent pas dans le blog, je suis déçu. Ils parlent de Quartz et ils parlent de gestion de la fréquence comme ça.
Mais d'un autre côté, le mec qui a écrit le blog est interne chez AWS. Donc il ne va pas te dire, genre, Google a fait un super truc. Je
n'ai pas dit Google, j'ai dit horloge atomique.
Il y a moyen qu'ils aient l'équivalent chez AWS d'avoir dans chacun de leurs DC une grosse source de temps. En fait, il y a des systèmes où il y a un réseau parallèle au réseau juste donné qui est le réseau de temps pour s'assurer que toutes les machines sont à peu près à la même heure. Je pense que si tu gères un truc comme S3 au niveau mondial, tu dois t'assurer d'avoir de la synchro qui marche quelque part.
Yes, Arnaud, tu as un avis là-dessus ?
Non, pas spécialement.
Non, du coup, c'est ça. Du coup, tu vas nous parler du prochain lien.
Le prochain lien, c'est… Un point peut-être sur les systèmes distribués, sur le temps dans le système distribué. C'est pas la seule solution pour synchroniser les systèmes, mais c'est hyper important. Et du coup, dès que vous voulez utiliser des systèmes en cluster, quels qu'ils soient, on vous demande pas de savoir implémenter les algos qui sont en dessous, surtout qu'il y a toujours des subtilités entre l'algo et l'implémentation. Mais je pense que c'est assez pertinent quand même d'aller lire ce type de papier, même si vous avez l'impression de juste utiliser une Mongo. C'est-à-dire que tout système distribué a des impacts dans sa distribution, et après vous allez faire des choix. Et par exemple, vous avez des systèmes où vous allez, par exemple, toujours prendre en compte les transactions. Vous avez des systèmes où c'est l'ordre de la transaction, d'autres où c'est l'heure de la transaction qui va compter. Enfin, c'est assez intéressant de regarder comment est construite du coup la base de données distribuée que vous employez en sous-jacent pour être capable de faire les bons choix. Donc, c'est ce type d'article est intéressant à lire, même avec. Enfin, faut se faire un bon técho avant, faut accepter que ça va être un peu pénible. Il va y avoir un peu de maths, mais je pense que c'est important de lire ce type d'article, même si on a l'impression d'être juste un utilisateur de ces systèmes-là, pour être capable d'affiner ses choix. Quoi.
Cet article-là est presque sans maths, il est tout à fait lisible, ça va.
Ouais. Mais c'est marqué Vector Clock à un moment, donc, tu vois, il y a Vector, tout ça.
Bah, c'est l'emporte qui est peut-être le plus difficile dans ce qui est expliqué, franchement, ça passe, lisez-le, il est bien. Et donc, next, WSL2. Je ne me rappelle plus ce que c'est, WSL, Arnaud.
C'est ça. Alors, WSL, c'est une technologie qui est arrivée, on va dire, sous Windows, qui veut dire Windows Subsystem for Linux. Globalement, en fait, l'idée, c'est d'avoir un système Linux, ou un environnement Linux, en tout cas accessible directement depuis votre machine Windows. Donc, du coup, la Microsoft a release la version 2 de ce système, la version 1, se basait majoritairement sur de l'émulation en fait d'un système Linux, comme on va dire ce que pourrait faire Wine rapidement avec les programmes Windows sous Linux, voilà. Et donc là, la version 2 maintenant annonce, on va dire, plus de rapidité, plus de d'interopérabilité avec Windows, etc. Parce que maintenant c'est de la virtualisation. Donc ça se base en fait sur leur hyperviseur, pardon, qui est Hyper-V. Voilà, donc c'est si vous avez un besoin, on va dire, parfois d'utiliser des commandes Linux ou Windows ou autre, c'est vraiment une techno qui est super sympa. Genre faire du grep, faire du find dans vos fichiers, c'est beaucoup plus simple que d'utiliser parfois la commande PowerShell ou autre pour vous en sortir. Quoi.
Mais attends, ça veut dire que la virtualisation, ce serait plus rapide que de lancer des processus en userland qui doivent checker des trucs?
Non, là, en l'occurrence, c'était émuler des trucs comme par exemple les IO.
Ouais, mais en fait, au-delà de l'émulation, tu es obligé de faire. En fait, tu es en userland, tu fais de l'émulation. Et en fait, une fois de plus, je trouve que le gros intérêt, c'est de prouver une fois de plus que la virtualisation, c'est juste une enclave sécurisée dans le CPU qui permet l'exécution de programmes. Et c'est vraiment comme ça qu'il faut le prendre. Il ne faut pas le prendre comme étant une machine virtuelle au sens VirtualBox, Tagada, de soin de soin, quoi. C'est vraiment un truc.
Littéralement ce qu'ils disent dans l'article, qui est assez intéressant. Ils ont les mêmes argumentaires que nous d'habitude, c'est vous entendez VM, mais c'est pas cette vieille machine virtuelle bien lourde qui émulait tout et qui était lente et que vous lanciez pour avoir Office sur votre Mac il y a longtemps.
Pour démarrer la machine, c'est ça, c'est quelques secondes maximum après avoir cliqué sur le bouton qui va bien. Enfin, genre c'était ouvrir un shell et dans les deux secondes qui arrivent, t'as ouvert ton shell. Donc c'était vraiment très rapide.
Et du coup, je trouve que c'est très intéressant parce que VMware a à la fin fait le triomphe de la virtualisation et fait son false fire. C'est-à-dire qu'en amenant le plus grand usage de la virtualisation au démarrage, VMware, en quelque sorte, ils ont tué les autres usages de la virtualisation parce qu'ils lui ont coloré, marketingement parlant, la virtualisation comme un truc hyper lent. Et je trouve que c'est intéressant parce que c'est souvent ce qui se passe dans les technologies. C'est les premiers usages de la technologie, en fait, on fait un peu le futur, quoi.
Normalement, si tu as quelqu'un qui apporte une nouvelle technique qui est inutilisable. Tu as quelqu'un qui construit la première couche d'abstraction CRAD par-dessus et tout le monde construit au-dessus après.
La killer app, ça va être killer app en killer app ou plus le machine learning dans les années 80, c'était inutilisable, mais maintenant, c'est le feu parce qu'enfin, on peut s'en servir. Mais parce qu'on a les moyens de le faire.
Sur WSL 1, l'émulation, il y avait aussi un vrai problème sur le match entre Linux et Windows. Par exemple, sur Windows, fork un process, c'est une opération qui est beaucoup plus coûteuse qu'en Linux. Et donc, si tu étais en mode d'émulation, tous les soft Linux qui font du fork dans tous les sens, parce que c'est une opération qui est très, très classique, bah tout d'un coup, c'était lent. Et donc, en fait, planquer ça dans une VM, finalement, il y avait des gains assez faciles, quoi.
Ouais, c'est ça.
Et en plus, tes comportements hyper différents entre l'émulation et la virtu, enfin, tu vois, tu vas vachement simplifier ta vie de développeur. En émulation, tu as quand même des comportements qui deviennent chelous, quoi.
Ouais, je me suis posé la question pourquoi est-ce qu'ils avaient fait de l'émulation au tout début et pour passer sur de la virtu après. Je sais pas trop s'il y avait, enfin, il y a peut-être des raisons techniques à ça, mais.
Je crois que tout simplement c'était un vieux projet et que, en fait, du temps où la virtualisation avait mauvaise presse et tout simplement. En fait,
du temps où on étudiait Sigwin pour faire ça.
C'est ça, c'est le fork interne de Sigwin qui a fait rentrer sur place tout d'un coup. Là. Hop là.
Mais moi, je trouve ça toujours très intéressant de voir comment, à la base, le fork interne de Sigwin, qui a du coup été release par Microsoft parce qu'en fait, il est important que les gens puissent se servir d'outils Linux sur Microsoft parce que les développeurs s'en servent beaucoup, d'un seul coup, se retrouve à devenir un produit à part entière hyper important et du coup, les mecs reconçoivent toute la technologie qui est derrière pour en faire un truc mieux. Et je trouve que c'est cool parce que ça veut dire que, en fait, il y a beaucoup aujourd'hui de push des développeurs qui est fait par des gens qui sont des développeurs, on dit aujourd'hui les rockstar développeurs, mais au-delà de ça, les gens de l'écosystème startup qui sont sous Mac, donc sur un Unix, qui bossent beaucoup soit sous Mac, soit sous Linux, et qui créent les outils pour développeurs, en fait. Et après, les développeurs 9to5 qui, eux, sont enfermés sous Windows dans des boîtes, tu sais, où tout l'environnement de travail est cadenassé comme il faut, va se retrouver avec des énormes emmerdes parce qu'en fait, tous les outils pour développeurs cool, mais ils n'y avaient pas accès. Parce qu'en fait, c'est des outils pour Linux. Et, enfin, pour Unix, en fait. Et je pense que l'un des grands trucs de WSL2, c'est de reconnecter avec les développeurs. Et je pense que c'était un des grands trucs qu'ils ont fait. Je trouve ça très intéressant. Et franchement, c'est cool de voir cette technologie aller aussi vite pour devenir aussi cool. Enfin, c'est nice, quoi.
Ouais, c'est avec ce genre de contraintes que tu te retrouves à avoir des frameworks de tests unitaires Hadoop développés dans les banques que nous utilisons chez Clever Cloud. Donc, big up à Cannes, si tu nous entends.
Et encore une fois, la virtualisation, c'est rapide.
Voilà.
C'est toutes les couches d'isolation IO qui sont lentes. Et ça, rien à voir avec la virtualisation. C'est lent. Que vous fassiez du conteneur, du process, de l'émulation, whatever, les couches d'isolation d'IO sont lentes. Et donc, ne pas utiliser les capacités du CPU pour les rendre rapides comme on peut le faire en virtu, c'est vous tirer une balle dans le pied.
Toujours dans l'optique Windows release des trucs cool pour les développeurs, il y a une nouvelle release du terminal Windows. Moi, j'étais resté à cmd.exe et à PowerShell. Et je découvre qu'en fait, il y a d'autres trucs qui existent, Arnaud.
Ben, c'est ça, en fait. Alors, on continue dans la partie release sous Windows, parce qu'au final, le mois de mai a été assez chargé en release pour Microsoft, on va dire. Et ouais, en fait, ça fait un an à peu près qu'ils avaient Vous avez parlé justement qu'ils travaillaient sur un nouveau terminal qui était open source, donc vous pouvez très bien le trouver sur GitHub, et qui en fait donnerait un petit coup de frais, on va dire, au terminal cmd.exe qui est, on va dire, tout noir avec une écriture blanche, une police assez terrible. Et donc là maintenant,
il n'y a pas de clipboard.
Ouais, bah là c'est toujours pareil, je crois. Je ne sais plus, j'ai pas vraiment testé jusqu'au bout. Bah, le clipboard était là si tu faisais du. Clic droit, tu surlignais, puis après, enfin non, tu surlignais, tu faisais du clic droit.
C'est pénible.
Voilà, on s'y connaît. Sous Windows, c'est parfois un peu pénible, mais ça marche quand même un peu. Et du coup, donc là, ouais, c'est ça. Il y a un nouveau terminal, donc on peut faire des trucs à peu près débiles comme changer la fonte et la couleur. Donc ça, on pouvait déjà faire sur cmd.exe. C'est un peu plus joli, c'est transparent, voilà, c'est un peu shiny, on va dire, quoi. Et il y a le support des emojis, vous avez le support des multitabs. Donc,
ça, c'est cool.
On va dire que c'est un terminal un peu 2000, je sais pas, année 2010, tu vois, par là.
Mais 2020, moi, année 2020. Sois gentil avec eux, on est en 2020.
C'est ouais, l'année
de dire que.
Non,
est-ce que ça.
2015, allez.
Est-ce que ça rivalise avec Germinal de l'ami Marc-Antoine?
Alors pour les gens qui ne savent pas, il faut expliquer ce que c'est Germinal.
Ouais. Alors je ne saurais pas comment l'expliquer vraiment bien, mais c'est un terminal qui vit dans. Enfin, qui se base principalement, on va dire, sur Tmux et puis après. Je sais pas trop.
Et qui est Génome, en fait. C'est un terminal pour l'environnement Génome codé par Marc-Antoine Perrenou d'Ikerusp.
Oui, ça, non, tu peux l'installer en dehors, parce que moi je l'ai en dehors et ça dépend pas de Genome Watt en fait, ça dépend.
Ah, j'avais l'impression que tu tirais vachement parti de l'écosystème.
Non.
Peut-être qu'il y a une petite appel à intégration.
VTE, mais...
Ouais, c'est une émulation VTE avec une intégration GPaste, j'imagine.
Ouais, bah, c'est ça, tu as les intégrations GPaste directement en T-Max aussi. Enfin, tu vis dans un T-Max, etc. Donc, voilà.
Ça, c'est tous les toolings de chez Marc-Antoine Perrello.
Ouais. Donc, c'est ça. Ouais, c'est clair. Il a développé son propre gestionnaire justement de copier-coller, comme vous parlez tout à l'heure. Qui sont assez
donc,
cool.
Donc voilà. Voilà pour le terminal globalement.
Geoffroy, tu utilises des terminaux sous Windows ?
J'en ai utilisé. Il y avait eu un précurseur à ça. Effectivement, ça, comme tu dis, ça fait très 2015. Notamment l'aspect, on va utiliser le GPU pour afficher du texte. En fait, ça paraît overkill, mais c'est extrêmement utile parce que bah, quand tu commences à avoir du texte qui défile très rapidement, c'est
nous dans la console les logs qui sont affichés dans la console Clever sont enfin il y a une propriété CSS qui dit bah tu les renders via le GPU quoi. Parce que en effet quand il y en a beaucoup
c'est beau.
Même plus loin que ça, si tu commences à avoir du Retina, des choses comme ça, enfin il y a un moment même le texte brut que tu en fonte monospace de codeur, bah tu vas quand même avoir besoin d'un affichage correct pour ça.
J'avais fait des benchmarks à une époque qui étaient changés d'un programme et mon benchmark bougeait complètement d'un programme à l'autre selon si je faisais le benchmark chez moi ou au bureau. Et je comprenais pas pourquoi le benchmark changeait entre chez moi et au bureau. Et en fait, ce qui se passait, c'est que quand j'étais au bureau, j'avais mes écrans secondaires branchés. Et donc, le terminal dans lequel je lançais le programme que je benchmarkais restait affiché et je le regardais s'exécuter donc avec tous ces logs qui circulait. Et quand j'étais chez moi, j'avais pas d'écran secondaire, j'étais sur un seul écran, et du coup, je n'étais pas sur le terminal du programme qui se faisait benchmarker pendant qu'il renait et donc affichait tous ses logs. Et du coup, le terminal ne calculait pas l'affichage des logs parce que le terminal était bien codé et donc ne calculait pas l'affichage des logs. Et en fait, le benchmark variait de 30% quand même d'un coup à l'autre, alors que le programme faisait quelque chose de complètement différent. Voilà. Comme c'est quoi, bon. Afficher du texte, c'est compliqué.
Ouais, s'il y en a que ça intéresse, sous Linux, c'est Qt et Alacrity qui sont les plus connus dans les terminaux accélérés en GPU.
Alacrity tourne sous OSX aussi.
Sous OSX aussi. Qt aussi, je crois. Moi, je utilise Qt. Voilà. Ils ne sont pas écrits en Rust, contrairement à Espanso. Espanso, c'est un lien apporté par Quentin. C'est un texte.
Ouais. Alacrity, c'est en Rust, je crois. Hein.
Ouais, Alacrity, c'est en Rust.
My bad.
Enfin, Alacrity, c'est en Rust avec 2-3 couches un peu bas niveau dont il faudra qu'on discute, mais Alacrity, c'est en Rust. Oui, Espanso. Espanso, alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un text expander, moi, ça fait des années que j'utilise un soft qui s'appelle Atext, qui est, en fait, tu tapes un petit bout de texte. Donc, par exemple, pour donner mon adresse mail, moi, je tape q@cc et ça écrit Quentin.adam@clever-cloud.com. Et en fait, ça remplace une abréviation par un truc. Et ça, c'est capable de gérer des choses comme bah, je te mets une phrase complète et je te remets au milieu. C'est capable de rajouter l'heure. C'est capable d'aller chercher dans le cas de Espanso. Donc, il est écrit en Rust. Il est très rapide. Il est très propre. C'est rare de voir un logiciel aussi bien packagé. Il est propre. Il marche sous Mac, sous Linux, sous Windows. Et il est capable d'exécuter des scripts. Donc, par exemple, d'aller chercher les prochains time slots disponible dans ton agenda. Il est capable de gérer des extensions. Donc, ils ont une espèce de repository dans lequel tu as du loren ipsum. Donc, par exemple, tu tapes 2.loren1, ça te fait du loren ipsum sur un paragraphe. 2.loren2, ça te fait 2 paragraphes de loren ipsum. Mais ils ont d'autres trucs vachement intéressants, en fait, dans le repository, et ils commencent à faire des repositories privés. Là, un des trucs que je veux faire, c'est pour tous les gens qui font du commerce chez Clever, tout l'argumentaire Clever, etc., le centraliser dans un repository disponible comme ça. Donc, j'ai trouvé ça super cool. Je suis assez fan.
Une excuse pour faire la documentation structurée à coup d'expander. Donc, je ne sais pas si j'irai jusque là. Par contre, pour faire des démos, je ne sais pas si Hubert utilise ça, mais quand tu fais des démos en live, plutôt que de montrer que tu sais taper avec un clavier, avoir un expander, c'est vraiment cool.
C'est ce que je fais moi pour les confs que j'ai pu donner dans un terminal. Si jamais j'étais pas à l'aise, en fait, mon expander prenait le relais. Donc moi, je vais switcher, je pense, de la texte à Espanso parce que j'ai vraiment bien aimé le truc. Je trouve ça vraiment cool. Et il y a des trucs vraiment sympas dans les. Il y a des formules Excel préprogrammées dans les packages. Et après, il y a des petits trucs du genre là, t'as un truc qui permet de faire un display de ta public IP. Donc tu as 2.IP et bam, ton IP apparaît dans les systèmes. Donc c'est vraiment pas mal foutu. Il y a des choses plutôt sympas. Je vous recommande ce soft. Moi, j'ai beaucoup aimé bosser avec un Text Expander toute ma vie et du coup, je vous recommande de passer au Text Expander. Voilà, c'était le point.
Arnaud Geoffroy, vous êtes utilisateur de ce genre de choses ?
Du tout.
Alors, moi, je connaissais même pas le truc en fait avant que le lien ait été mis. Je savais pas D'accord. que ça existait. Donc,
tu l'utilises parce que c'est cool et pas parce que c'est écrit en Rust seulement. Comme par exemple Photon. Et le lien suivant. Qu'est-ce que Photon ? C'est du processing d'images en Rust et en Wasm. Et du coup, ça tourne dans le browser et tu as une lib Rust que tu fais retourner en natif si tu veux. Ça, c'est un lien de Geoffroy, je crois.
Ça. Donc, en fait, ça fait longtemps qu'on se dit, mais on pourrait dans le navigateur exécuter des apps un peu costauds au niveau processing. Il y avait des exemples de, on ferait une espèce de Photoshop en Wasm, enfin en browser avant. Et là c'est, ça se professionnalise. C'est-à-dire qu'il y a une crate qui est assez connue qui s'appelle Image, qui a été wrap, compilée en Wasm et mise dans Photon. Et Photon a rajouté son set de filtres par-dessus. Et en fait, c'est quelque chose qui se charge extrêmement rapidement dans une page, qui applique des filtres très rapidement aussi. Donc, il y a du processing assez avancé qui peut être fait directement côté navigateur. Alors, ça peut être un petit filtre comme ça juste avant d'uploader une image. À quelques millisecondes pour charger la lib, ça, c'est largement gérable. Mais on peut aussi imaginer vraiment quasiment du traitement d'image dans le navigateur qui soit aussi fluide qu'une application native. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce qu'on attendait des cas d'usage comme ça, l'édition d'images, de sons, de vidéos dans le navigateur sans passer par une app native.
Vexeux ou Arnaud ?
Non, mais c'est vrai que moi j'ai trouvé ça vraiment sympa. C'est vrai que c'est toujours parfois un peu chiant si tu veux éditer une image, tu dois avoir le bon outil peut-être ici et là, genre je sais pas, sous Mac pour sortir un peu de Photoshop ou sous Windows, tu vois. Mais genre sur Linux, t'as Gimp, moi je suis nul avec Gimp.
Parce que t'as la flemme que Gimp se lance.
Ouais, Gimp, aussi, tu vois. Mais juste avoir un site peut-être qui te permet de faire des petites modifs super simples, en fait, super débiles, ça peut être vraiment, vraiment sympa, je pense.
Alors, en général, je tape free online image editor sur Google et je prends le premier que je trouve.
Ouais, c'est comme ça que je fais aussi.
On se rend en flash et tout. On se retrouve régulièrement à avoir du image magique appelé directement en command line côté serveur pour traiter les images qui arrivent des API, enfin, c'est dire si le traitement d'image en web, c'est quand même crade pour le moment.
Mais du coup,
c'est tout ce qui est personnalisation, tout ce qui est fil, tout ce qui est personnalisation de thème, tous ces trucs-là, c'est quand même super cool de pouvoir le faire tourner. Et puis même là, nous, avec Arnaud, quand on a fait Macaire, on a dû jouer pas mal avec les images, parce que l'interface graphique est faite en natif, et on utilise justement la Create Image pour faire ça. Et clairement, il y avait des choses qui manquaient en processing. Bon, nous, on les a fait autrement. Mais tu vois, typiquement, le resizing, ça aurait été cool de l'avoir. Maintenant, c'est codé, tu vois, mais ça aurait été cool de l'avoir, le resizing photon.
Ça a été arrivé, mais ce qui est vraiment cool, c'est le. Tu n'as plus besoin d'installer Image Magic ou assimiler et faire du C. Donc, si c'est natif et que ça fait du Wasm, c'est-à-dire qu'on peut s'en servir dans le phase de Clever ou dans des petits trucs sandboxés comme ça. C'est quand même plutôt une bonne nouvelle. On pourra faire du Instagram en serverless sur Clever.
T'as déjà essayé de le coller un peu dans le face ou pas, Jérôme ?
Le traitement d'image, les filtres, tout, oui, ça marche.
Je te rappelle que tu as fait une démo de watermarking avec Quentin.
Oui, mais c'était pas avec Photon, c'était avec Image.
C'était avec Image.
A priori, ça ne va pas marcher directement parce que c'est très très orienté Wasm dans le browser. Mais par contre, Image, j'ai déjà utilisé. Je l'ai même en sous-fonctionnalité d'un autre exemple où je pré-processe une image avant de l'affiler à traiter par un modèle de machine learning. Donc, ça marche plutôt bien.
Moi, ce que je trouve cool, c'est qu'en fait, en Rust, là, ils sont en train de réécrire tranquillement toute la base de ce qu'il faut pour faire un système bien distribué, bien propre. Ça va être vraiment sympa, je pense. Donc, c'est cool.
Yes. Dans les réécritures un peu sioux dans le monde, nous, nous arrivons à Matrix. Matrix, c'est le protocole utilisé par Riot.im, qui est le logiciel de chat. Et ils sont lancés dans le peer-to-peer, et ils sont lancés dans le peer-to-peer un peu comme les sauvages en disant...
On peut expliquer, c'est une sorte de fédération, c'est un remplaçant Slack open source avec un mode fédératif. On peut le dire comme ça ? Pour expliquer aux gens à quoi sert Matrix.
Bah, c'est une spec aussi.
C'est surtout une spec, en fait, avec une
applem. Une spec et tout.
Ils proposent des couches bas niveau en applem. Après, tu peux, libre à toi de t'en servir ou pas.
C'est vrai, tu peux faire des rooms, tu peux faire des channels, bon, c'est pareil, mais faire des serveurs tout entiers, etc.
C'est souvent présenté en opposition à XMPP en disant c'est la nouvelle XMPP plus récent. Et c'est vrai qu'au FOSDEM, effectivement, ils étaient au même endroit. Et là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont partis full peer-to-peer en se disant, de toute façon, on va bundler le serveur et le client au même endroit, on va le distribuer à tout le monde. Et le truc qui a été cool, c'est que une partie de ce truc-là est écrite et tourne en WASM dans un service worker, dans votre browser. C'est-à-dire que ton browser fait serveur aussi. Et que tu peux fédérer... Fédérer comme ça.
C'est ça, en fait. Il n'y a plus de serveur central, on va dire, hormis le serveur de rendez-vous, en fait, voilà, qui permet de mettre en relation les différents peers. Mais ouais, c'est ça. Chaque client est aussi, au final, un serveur et peut devenir host d'une partie de la conversation, etc. Quoi.
C'est ouais, cool, le peer-to-peer.
Bah ouais, c'est trop bien.
Tu veux dire sur quoi tu bosses en ce moment aux gens, Arnaud, en peer-to-peer ? C'est marrant ce que
c'est. C'est vrai, en ce moment, je fais un cache, on va dire, de dépendance en peer-to-peer. C'est-à-dire, sur toutes les instances de Clever Cloud, il y a différentes dépendances qui ont déjà été téléchargées depuis des serveurs externes. Et l'idée, ça serait que, au lieu d'aller chercher ces dépendances sur des serveurs externes, d'aller plutôt les chercher sur les instances qui sont juste à côté. De vous, en fait, sur le même serveur ou en tout cas dans le même DC.
En clair, au lieu de télécharger 6 fois Spring Boot, en fait, on va le chercher à côté, quoi. Et comme on a des tonnes et des tonnes d'applis, ça commence à avoir un R0 intéressant.
C'est l'idée. Et au final, on utilise en fait la même lib que ce qu'utilise Matrix, hein, lib P2P qui est au cœur de pas mal de projets.
Mais lib P2P à la base, c'est les gens de chez IPFS, non, qui ont fait ça?
Ouais, c'est ça. C'est les gens de chez IPFS qui, en fait, je pense qu'ils se sont dit, y a probablement moyen de faire un truc en dessous, et surtout, en fait, il faut quelque chose. En fait, t'as l'IP2P qui est une spec, en fait, on va dire, et qui est après implémentée dans différents langages, avec Go et JavaScript étant les langages les plus complets au niveau de l'implémentation de la spec. Quoi. Donc, en fait, c'est ça, il y a en JavaScript, en Go, en Rust, pour faire du peer-to-peer assez, on va dire, facilement. C'est vraiment pas mal.
La question que je me demandais sur le peer-to-peer, c'était est-ce qu'on se retrouverait dans la même situation qu'IRC avec besoin d'être connecté tout le temps et d'avoir un logger pour avoir l'historique, ou si du coup, quand tu te reconnectais à ta maille, aux gens qui avaient la même room que toi, tu pouvais récupérer l'historique et du coup, tu n'avais pas besoin de logger tant qu'il y a quelqu'un qui reste connecté tout le temps.
Non, c'est comme... en fait, c'est des protocoles qui ont été inspirés de tous les travaux qui ont été faits sur Diaspora. Et du coup, tu as la notion de où est-ce que j'en étais et pour tout récupérer existe. Ah, là où IRC, IRC n'est pas du tout du P2P. Tu es un client serveur et si le client n'est pas là, il va mourir. C'est ça. Et donc, en fait, tu es obligé de te mettre un client persistant et toi-même avoir un client de ton client. Ou alors venir te connecter en SSH et du coup, tu es en ligne de commande. Et c'est pour ça que ça se passe comme ça se passe. Après, il commence à y avoir des clients très sympas en IRC qui stockent tout tranquillou dans une database et toi, tu t'y connectes et tu es en WebSocket dessus, c'est pas si mal. Et
la database, c'est quand ça se passe bien. Moi, j'avais déployé de Lounge et c'était sur un fichier. Tout était logué en fichier.
Mais je crois que Riot, ou je sais plus qui, enfin bref, fournit des bridges IRC à travers le protocole Matrix. Donc au final, tu peux avoir ton application Matrix sur ton téléphone et accéder à tes channels IRC, etc. Si jamais.
L'occasion de rappeler que il y a un chan Clever de mémoire sur Freenode. Je ne sais pas s'il y a encore beaucoup de monde dessus.
Ouais, il y en a un. Il y a quelques personnes. Il faut que je me reconnecte. Mon serveur étant mort, je ne me suis pas reconnecté.
Et il y a un Jitter aussi, toujours dans la série, pareil avec des gens, jitter.im.
C'est ça.
Et nous, on a une room FR et une room EN. Du coup, vous êtes les bienvenus pour, par exemple, venir nous parler de ce podcast dessus. Sans transition, on passe au lien suivant. Mais je crois que c'est toi aussi, Arnaud, qui l'a mis, ce lien-là.
Oui.
C'est sur les. Parce que. Il se trouve que ça décrit un problème dont tu as été victime la semaine dernière.
Oui, voilà, c'est ça. Alors, donc le lien, globalement, c'est... le problème dont on a été victime, on va dire, la semaine dernière, plutôt, on va commencer comme ça, c'est une expiration de certificat intermédiaire. Donc, c'est-à-dire que quand vous avez un certificat, en fait, vous insérez ça sur votre site, vous avez toute une chaîne de certification. Vous avez votre certificat à vous. Et après, vous avez donc en général des certificats intermédiaires et ensuite un certificat, on va dire, route. Et en fait, toute cette chaîne-là en fait, valide le fait si votre client TLS valide la chaîne ou pas, c'est-à-dire que votre site est bien, bien de confiance parce que bah, la chaîne est résolue. Et du coup, il y a deux semaines, à un moment, donc c'était un dimanche matin, tranquillement, voilà, un DCA intermédiaire a expiré. Et ce certificat en fait, a été beaucoup utilisé. Donc, il a impacté au final pas mal de monde. Nous, on a été moyennement impacté au final. En tout cas, en interne, on n'a pas été impacté. C'était à la rigueur les vieux clients, c'est ça qui essaient de se connecter à nos services qui avaient du mal. Mais au final, les clients de nos clients n'ont pas été impactés si le certificat n'était pas impacté. Non. Donc. Mais voilà. Et du coup, ça faisait que, bah, je ne sais pas si par exemple, vous faisiez un curl sur une machine un petit peu vieille, bah, il y avait une erreur TLS, alors que si vous iriez dans votre browser sur la même URL, ça ne fonctionnait pas.
Ah, est-ce que les browsers shippent leur propre.
Leur propre date et surtout là, nous dans notre cas c'était pas le cas de tout le monde qui était impacté, mais alors j'ai pas tout compris, mais un certificat peut être, enfin on peut valider la chaîne d'un certificat par plusieurs chemins on va dire, et du coup nous en fait comme le certificat intermédiaire qu'on utilisait avait déjà été cross-signé je crois avec un autre certificat, enfin en fait il y avait deux résolutions possibles de toute la chaîne. Et bah, du coup, en général, les navigateurs utilisent les deux, alors que parfois, certaines libres, genre OpenSSL, je crois, 1 apparemment, voilà, 1.1, mais là, 1.0, utilisaient que le premier pass, et c'était probablement celui qui était expiré. Enfin, bref.
Mais ce qui n'est pas forcément super intuitif quand tu fais beaucoup de web et qu'on t'explique que l'Ads Encrypt est génial et que tu dois juste mettre à jour ton certif côté serveur, c'est qu'en fait, ça se passe aussi côté client. Et ça, on n'en parle pas beaucoup. Et c'est là que tu te rends compte que tous les objets qui ne sont pas à jour ou tous les. Un ordinateur se met facilement à jour, mais il n'y a pas que des trucs qui accèdent à Internet dans les ordinateurs, enfin dans les desktops ou dans les laptops. Il y en a aussi dans les smart machins, dans les TV, dans les dans toutes ces conneries. Et là, si on ne pousse pas de mise à jour.
C'est ce que décrit en fait le lien, c'est que la personne avait fait un moment, c'est la BBC apparemment qui avait mandaté cette personne. Pour anticiper un problème du style, en fait, justement, parce que dans quelques années, ils allaient avoir un problème de certificat expiré, et du coup, ils se demandaient bah, comment gérer au mieux. Et c'est compliqué, en fait, parce que tu n'es pas maître en fait, des équipements qui sont pas à jour, et bah, tu vas forcément perdre du monde à un moment pendant la bataille. Quoi. Et c'était un peu, c'est un peu l'un des problèmes qu'il y a. Donc après. Aujourd'hui, il y a toujours des moyens de. Bon, bah, tu vas quand même. Il y a quand même des certificats qui sont cross-signés avec d'autres, donc tu peux quand même faire en sorte d'attendre le dernier moment, puis après tu le mets à jour et tu as encore un certificat qui est valide un an avec un peu de chance. Il a été mis à jour dans des systèmes il y a 10 ans, etc. Enfin, c'est un peu de la prière, quoi. Donc, moi, je pense, tu vois, je sais pas, j'ai l'impression que c'était un peu ça, ce qu'il a, comment il l'a décrit. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais.
Ouais, c'est hautement incertain, je suis d'accord avec toi. C'est. Maybe ça va être maybe not.
Ouais.
Et en fait, le problème fondamental de ce truc-là, c'est que bah, tu n'as pas la main sur les ressources de tes clients, en fait. Donc, bah, même si toi, tu fais ton taf, il faut que toute la chaîne le fasse.
Tu vas perdre des gens, quoi. Ouais. C'est ça.
Et c'est triste. Et encore une fois, pas super intuitif quand tu as l'habitude juste de faire du web. Un root certificate, c'est à la quoi, 25 ans, je sais plus, ou 30 ans. Et du coup,
Ça dépend. Là, celui-là, par exemple, était valable des années 2000, justement, à 2020. Donc, il a été créé genre le 28 mai 2000, c'est ça. Et il a expiré le 28 mai 2020, quoi. Genre, enfin, c'était il y a 20 ans, quoi. Genre, c'est. Voilà, ouais. Il y a d'autres certifs qui sont valables 30 ans, d'autres 25 ans. Je crois qu'ils ont juste fait en sorte que ce soit une très grande période de temps. Après, je suppose qu'ils peuvent bien faire ce qu'ils veulent, je sais pas trop. Mais voilà.
Quand un jeu froid, vos CA stores sont à jour?
Généralement, oui. Enfin, quand on passe par les navigateurs, c'est à peu près à jour.
Ouais, c'est
sûr. Les vieilles CA, c'est un problème qui va apparaître régulièrement dans les 10 prochaines années parce qu'effectivement, toutes vont avoir leurs certifs qui vont sauter les uns après les autres. Donc, espérons qu'on aura des solutions. Mais c'est pour ça, par exemple, que faire du Let's Encrypt partout, c'est bien pour des nouveaux sites. Mais si on a des vieux clients quelque part, de toute façon, non seulement ils viennent avec des vieilles CA qui vont peut-être être expirées à un moment, mais ils ne viendront pas avec les CA récentes. Donc, on peut avoir des cas assez rigolos comme ça de vieux clients qui ne peuvent pas se connecter. Et on ne va peut-être pas les abandonner non plus. Des fois, il y a de l'IoT un peu dans tous les coins qui... Un tableau électrique industriel quelque part, un bus qui envoie des métriques à un serveur, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas les mettre à jour. Quoi.
C'est ça. C'est ça. Alors qu'on pouvait facilement mettre à jour un décodeur pirate il y a longtemps. Et c'est le lien suivant. On parle du cryptage Canal+. C'est Arnaud, je crois, qui a rajouté ça. Parce que ça te faisait marrer, en fait.
Ouais, ça me faisait marrer, ouais, c'est ça. Genre, je me suis dit, ça va vous faire marrer aussi, en vrai.
C'est effectivement assez amusant.
Ouais, donc, vas-y, si tu me dis.
Ça décrit un peu comment était fait du... Alors, c'est pas vraiment de l'encryption. C'est un jeu subtil de changement avec du hardware de signal pour que tu aies l'impression que le truc soit encrypté. Et, du coup, mais en fait, avec le bon matos... et la connaissance de comment ça a marché, tu peux annuler ça et du coup, tu peux pirater l'encryption Canal+.
C'est ça. Alors après, du coup, c'était la toute première, hein, si je ne dis pas de bêtises. Hein.
Ouais, c'était en 84.
C'était dans les années 84. Donc ça remonte. Hein. Mais ouais, l'idée, c'était juste de shift des lignes à droite, enfin certaines lignes de temps en temps à droite ou pas, et ce qui fait que tu avais une image floue en fait tout en continuant de regarder, enfin d'avoir le contenu à peu près visible.
Oui, et le son, je ne sais plus comment il le bricolait aussi, mais c'est pareil, c'est un bricolage en fait le son.
Tu avais un autre bricolage, il ramenait tout à la fin de la frame aussi, enfin c'était assez.
En fait, ça se base essentiellement sur l'idée que de toute façon, les gens ne vont pas pouvoir bricoler ça chez eux, ce qui est devenu une idée majoritairement fausse parce que maintenant les gens ont des sous et l'accès à des ressources électroniques facile en fait.
C'est ce qu'ils disent dans l'article, c'est que tu avais plein de boutiques électroniques qui te vendaient le kit, en fait, pour le gérer. Tu avais déjà toutes tes pièces. Tu avais le plan. Tu n'avais peut-être pas le plan, hein. Mais en tout cas, tu avais des kits.
Ça demandait quand même 2-3 connaissances pour le faire, quand même, tu vois.
C'est ça. Et il n'y avait pas forcément Internet aussi vite que.
Ah, c'est vrai. Maintenant. Il n'y a pas du tout YouTube.
C'est ça.
Dans les bureaux de Clever, là, il y a un Marantz qui vient d'arriver comme ampli. Et j'en parlais avec l'électronicien qui nous a aidé à réparer le Marantz. Parce qu'en fait, un Marantz qu'on a acheté sur le bon coin et qui était niqué, quoi, qui marchait plus. Et fondamentalement, on a juste pris le Marantz, on a ouvert le Marantz, on a bricolé le Marantz, il est reparti. Et on n'a même pas rajouté rien dedans. On a juste rajouté un peu de plomb. Il y avait des pistes en sale état. Globalement, on a fait le ménage et on a rajouté des pistes. Tu as demandé d'avoir un voltmètre et de comprendre. Il disait, mais comment tu sais quel est le plan du truc? Il me dit, bah, en fait, regarde, tu prends n'importe quel ampli, tu tapes son nom dans Google, en fait, c'est de l'open hardware. En fait, les amplis, c'est de l'open hardware. Si tu cherches un condo, en fait, c'est ce condo, telle référence, c'est facile. Tu tapes la référence dans MacParts et après, tu as qui vend la référence. Quoi. Et du coup, c'est parti. Et c'est vrai que là, du coup, dans mes cas, je joue beaucoup avec de l'électronique. Et c'est incroyable ce que c'est devenu cheap, quoi. Tout est cheap. Et en fait, avoir du matos de qualité pour travailler, c'est pas cher. Et du coup, bricoler des trucs vraiment, c'est simple. La moindre alim de labo, qui à une époque coûtait une fortune, aujourd'hui tu trouves des alim de labo à 50 balles. Elles sont un peu pourries, hein, je te dis pas le contraire, elles sont pas si stables que ça, elles montent pas très haut, tout ça, mais elles sont à 50 balles et tu peux déjà faire plein de choses. Et du coup, je pense que tu peux aujourd'hui faire des cartes filles que tu vas caler sur des Arduino ou des Nucleo pour bricoler avec tes enfants et tout, c'est devenu quelque chose de simple à faire, de ludique et de pas coûteux, quoi. Voilà. C'était mon côté. Faites joujou avec des condos, c'est marrant.
Et dans la série coûteux ou pas coûteux, je propose du coûteux, puisque nous avons un article d'IBM qui parle ensuite de crypto-homomorphique. Et pendant des années, apparemment, c'était vu comme quelque chose de vraiment pas accessible parce que compliqué et cher, il faut écrire plein de trucs. Et donc là, IBM vient de sortir un SDK, un toolkit. Pour l'instant, c'est Mac et iOS et bientôt Linux Android pour faire de l'encryption homomorphique. Geoffroy Coupry, c'est quoi l'encryption homomorphique ?
C'est un concept qui est très intéressant, qui est d'appliquer des opérations sur de la donnée chiffrée sans la déchiffrer. Donc, si moi, j'ai un bout de texte ou d'image ou quelque chose comme ça et que je le chiffre, je te l'envoie. Tu vas, par exemple, redimensionner l'image ou appliquer des filtres dessus. Et tu me renvoies la donnée. Je vais déchiffrer. Là, l'opération aura été effectuée dessus. Mais toi, tu n'auras jamais vu ce qui se passait dedans. Tu n'auras jamais pu déchiffrer la donnée. Donc, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Il y a des méthodes, par exemple, basées sur RSA, qui sont vieilles comme le monde maintenant, on va dire. Le problème étant qu'elles étaient extrêmement lentes. Donc là, chez IBM, ils ont réussi à trouver ils utilisent l'état de l'art et c'est plutôt bien packagé, c'est plutôt bien rapide. Donc c'est intéressant qu'ils réalisent ça et qu'ils en fassent une libre cross-platform utilisable dès maintenant. Ça montre que ça se professionnalise sur ce sujet-là, quoi.
Tu en connais d'autres à part IBM ?
Il y a plein de gens qui bossent dessus, notamment l'ami Randindi bosse à fond là-dessus en ce moment, c'est sa nouvelle boîte. Et ça peut s'appliquer également, dans le cas présent, à des réseaux neuronaux. Et c'est très intéressant parce que tu entraînes un réseau neuronal, tu le colles en homomorphique, et après, du coup, tu peux prendre de la data, la chiffrer. Donc, par exemple, la voix dans ton salon, de toi en train de dicter des trucs à ton assistant personnel, ton assistant personnel la chiffre, elle est envoyée au réseau pour décodage dans le lointain, renvoyer, l'assistant personnel peut déchiffrer la donnée, mais du coup, dans les serveurs distants, il n'y a jamais eu la donnée. Et ça, c'est génial. C'est encore un peu balbutiant parce que ça coûte un peu une fortune et demie en calcul. Mais c'est hyper intéressant pour la vie privée. Enfin, le chiffrement homomorphique pour la vie privée, ça apporte un truc génial. C'est que ça permettra d'utiliser ce qu'aujourd'hui, enfin, les fonctionnalités cool du machine learning dans un contexte où on peut respecter la vie privée des gens. Pour peu qu'on décide de s'en servir, et je ne suis pas sûr que tous les acteurs soient partis sur cette idée-là, notamment ceux dans le business et de vendre ta vie privée.
Ça nécessite de réécrire un paquet de trucs aussi, du coup. Indépendamment de la moralité des gens et de ce qu'ils font avec.
Pas tant que ça.
Le SDK qui propose là.
Alors le truc d'IBM, oui, le truc Rand fait, non, en fait, tu prends ton TensorFlow, tu le colles dans son bidule et fin d'histoire, tu vois. Mais on pourra éventuellement proposer à Rand de passer en parler quand il aura un truc qui fonctionne. Moi, j'ai vu des démos et je suis très excité par les technos de chiffrement homomorphique. Enfin, c'est une vraie piste pour respecter la vie privée des gens tout en leur rendant le service qu'on essaie de leur rendre aujourd'hui en pillant leur vie. Mais ça...
CF, l'épisode de la semaine dernière où nous avons parlé de... entre autres, la différence entre l'interprétabilité, l'explicabilité et l'intérêt que ça a pour la vie privée des gens. Et en parlant de vie privée des gens, nous avons IBM qui a décidé, enfin de vie privée, en parlant de choses bien pour les gens, IBM a décidé d'arrêter de développer son SDK de reconnaissance faciale. Et c'est un article assez intéressant. Moi, j'ai découvert qu'ils étaient déjà là-dedans depuis un moment. Et ils essayaient déjà de faire les choses un peu mieux que tout le monde. Si vous vous rappelez, au début de la reconnaissance faciale, tu avais des petits problèmes, des petits biais un peu racistes, en fait, où globalement, la reconnaissance du visage, ça marchait que quand tu étais blanc, qui était probablement lié, entre autres, au jeu de données utilisé et entraîné. Et IBM avait déjà fourni un jeu de données beaucoup plus divers que ce que tu pouvais trouver en scrapant un peu le web. Et là, ils ont été encore plus loin en disant, en fait, on vient d'apprendre que nos trucs étaient utilisés par la police ou l'armée, je ne sais plus. Et du coup, on arrête. Quelqu'un a un avis là-dessus ? Quentin, je sais que tu as un avis sur IBM, sur le vertueux d'IBM.
Non, je ne donnerai pas cet avis en public. Mais je trouve ça toujours amusant quand les grands groupes américains te donnent des leçons de morale alors qu'ils font n'importe quoi de l'autre côté. Mais bon, ceci dit, pour ce coup, c'est intéressant. Mais quand même une boîte qui a plus de 100 ans et qui a donc vu traverser plusieurs guerres, dont des périodes sombres. Et je trouve ça toujours amusant quand ils te donnent des leçons de morale. Mais ceci, c'est bien. C'est que les gens évoluent et faut pas jeter l'opprobre indéfiniment sur les gens. Hein. Non, peut-être même qu'un jour, on redonnera le prénom Adolphe à des gens, tu vois, on ne sait pas. Tu vois.
Voilà, en privé donc. Tu as toujours le côté aussi arbre qui cache la forêt, en disant waouh, on a fait un truc, c'est cool. Puis après, ils disent pas trop ce qu'ils font sur le reste. Tu vois. Donc on ne sait pas trop. Mais en tout cas, écoute, c'est bien qu'ils soient lancés là-dedans et qu'ils commencent à être un peu plus responsables sur ce genre de choses.
Non, mais écoute, c'est quand même cool que les grands groupes de software américains commencent à se poser des questions d'éthique. J'ai envie de dire, ça arrive un peu 20 ans plus tard, mais ce serait bien que tout le monde commence à se poser des questions d'éthique. Ça fait longtemps que je dis aux développeurs qu'il faut se poser des questions d'éthique, que ce soit ce que fait ta boîte, mais que ce soit aussi la place de ta boîte dans ton pays. Et fondamentalement, je l'ai plusieurs fois dit, travailler pour un groupe qui a pris la décision de faire de l'exil fiscal, c'est aussi travailler pour des gens qui sont en train de péter notre système de santé. Vous savez, le fameux hôpital pour lequel on applaudissait tous les soirs à 20h, c'est aussi ça. Et donc, je pense que le choix personnel est important. Et là-dessus, c'est peut-être le slide d'après, non ?
C'est le lien d'après. Effectivement, les choix personnels en tant que développeur, regardez un peu votre job dans sa globalité. C'est un monsieur qui s'appelle Randall Thomas qu'on a rencontré à Lone Star Elixir, qui est une conf Elixir au Texas, qu'on a vu au mois de février. Et tout le contexte actuel m'a fait penser un peu à cette conf-là, où il t'explique qu'on voilà, on est dev, on a tous des responsabilités. On en parle un petit peu, mais très rapidement quand on va à l'école, dans les écoles spécialisées en informatique. On te dit
que... Non, c'est parce que toi, tu étais dans le public. Dans les écoles privées, personne ne t'en parle.
C'est ça. Est-ce que... Ouais, je... NSPP. Et j'ai trouvé ça... J'ai trouvé ce truc vraiment chouette, surtout en ce moment. Et pour rebondir sur ce que tu disais sur les choix, ça demande un peu de... Les choix qu'on fait en tant que développeur, pour qui on travaille, ça demande un peu de... Se demander d'où vient l'argent qui nous finance. Parce que tu as des boîtes qui font de la tech maintenant, mais les revenus de cette boîte-là peuvent, par exemple, venir de l'exploitation de travailleurs pauvres. Je pense éventuellement à une boîte de cloud dont nous t'es ronde.
Ouais, ou tu pourrais penser aussi au tweet du fondateur de React qui a plus ou moins annoncé qu'il ne cherchait pas encore un travail maintenant, mais que si on lui en proposait un, il quitterait peut-être Facebook, mais que mes conditions salariales seraient ça, mais je ne cherche pas de travail.
Ça.
Par exemple.
Par exemple. Donc voilà, c'est un mec qu'on avait rencontré à une conf Elixir, et c'était bien, bien sympathique. Et on va en profiter pour... mentionner le fait qu'on a publié un blog sur comment déployer du Elixir sur Clever, en l'occurrence du Phoenix, qui est globalement qui est à Elixir ce que Rails est à Ruby.
Elixir, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, Elixir, c'est un langage qui est basé au-dessus de Erlang. Erlang est très, très bizarre, il est très dans son coin quand même comme langage. Tout le monde n'accroche pas avec. J'aime beaucoup Erlang dans son concept. À chaque fois que j'ai essayé d'écrire des softs entiers en Erlang, ça s'est quand même fini par « Ah !» Tu vois, genre, je vais le réécrire en autre chose, genre du reste. De Erlang, beaucoup ont bénéficié, notamment le système acteur d'Erlang. C'est le système que vous avez retrouvé dans Projector Lean, dans AK, c'est tous ces trucs-là. Donc, en fait, c'est quand même un langage qui a une grosse pérennité. Et il y a des gens qui ont écrit un langage au-dessus du runtime, au-dessus de Erlang OTP, qui s'appelle Elixir, qui est quand même beaucoup plus accessible comme langage, mieux structuré à mon humble avis. C'est déjà, un langage qui se déploie bien.
Il est plus web déjà dans l'esprit, parce que c'est un truc moderne et Erlang, ça a été fait dans les années 70. Il ne faut pas oublier que si on a pu utiliser le téléphone pendant toutes ces années dans le monde entier, c'est quand même un peu à cause d'Erlang, grâce à Erlang. Donc on parle de système très distribué. Et à l'époque, le web grand public, entre guillemets. Pas trop ça. Et du coup, Elixir est beaucoup plus agréable à utiliser dans ce sens-là.
Et du coup, Elixir est cool et Phoenix, c'est un peu Elixir on Rails. Si vous avez envie de jouer un peu chez vous, Jouer un peu avec Phoenix. En vrai, il est plutôt sympa ce framework. Moi, j'ai plutôt apprécié quand j'en ai fait. Je crois même qu'il y a des bouts de trucs chez nous en Phoenix.
Il y a deux, trois trucs qui tournent en Phoenix. Le truc qui est vraiment top, c'est la notion de. Je crois que c'est Live Action en Rails, enfin, la partie WebSocket, la gestion de la WebSocket, de manière générale. Donc, Phoenix, c'est super bien foutu. C'est vraiment cool pour faire du temps réel. Il faudrait qu'on demande à Nico sa voix de passer nous expliquer ça un jour. Par exemple.
Vous avez regardé la conf de Randall, les gars, ou pas du tout ?
Non, j'ai pas eu le temps.
Randall est quelqu'un de très sympathique, il faut le dire. Randall Thomas, c'est un mec qui a fait beaucoup de choses. C'est un des premiers employés aussi de Engine Yard. Enfin, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de choses
pass,
bien.
Qu'on a peut-être oublié, mais ça fait partie des premiers passes, tu vois. Donc, c'est.
Ok.
Bien.
Bref, la conf de Randall, elle est cool. Et du coup, c'est pour ça qu'on voulait vous en parler.
C'est un chic type et chouette rencontre. Anyway, nous approchons de la fin avec un peu de chance. Je pense qu'on a réussi à tenir et à faire moins d'une heure cette fois. C'est le moment tant attendu de la sélection musicale de la semaine. Et donc, j'ai mon outil de décision. 1 à 5, Bob, c'est moi. 6 à 10, c'est Geoffroy. Ensuite, Arnaud. Et ensuite, Quentin. C'est parti. Et je tombe sur un échec critique. J'ai fait 1. Voilà. Eh bien, vous allez avoir droit à ma sélection. C'est bizarre du tout de m'auto-introduire sur ma sélection. C'est très chelou.
Bah, tu veux, je peux t'en charge pour toi.
Et donc, du coup, qu'est-ce que tu nous as sélectionné cette semaine, Laurent ?
Je vous ai sélectionné un mix de mon camarade de Charles Schillings, qui, comme la plus grande partie de mon réseau socio-professionnel, a été rencontré autour d'un verre. Et Charles était assez connu pendant toute la période French Touch. Il était résident au Queens, au Rex, il a été pour à Tokyo, tout ça. Il est essentiellement DJ, et ça, c'est un mix qu'il a fait pour Télérama il y a quelques années, et que je réécoute de temps en temps. Dedans, il y a du Killing Joke, il y a du Talking Heads, il y a du Tom Waits, il y a plein de choses de là. Et j'aime bien bosser en écoutant ça. Ah, voilà.
Oh, c'est cool, en vrai.
Ouais.
C'est assez efficace, on aime bien.
Bon.
Et ben voilà, mes chers camarades, à la semaine prochaine.
Bisous.
Ah, j'ai pas arrêté pour mettre.
Salut.
Salut.
Ça, c'est pour les youtubeurs.